tracer son chemin, faut refaire comme si tout allait bien.
Et tout va bien.
Passe le message à ton voisin. Faut refaire comme si tout allait bien.
Et tout va bien.
Passe le message à ton voisin. Faut refaire comme si tout allait bien.
Et tout va bien.
Passe le message à ton voisin.
Once upon a time. S'il vous plaît, je vois une pelle. Qui c'est qui est intéressé? J'ai une pelle parce que moi j'ai une flingue. Quelqu'un, normalement, doit me poser à ma place, quoi.
Bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'est qu'un rayon d'action de trois bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Il y a 108 ans, le 19 septembre 1917, pendant la Première Guerre mondiale donc, la plus grande mutinerie de l'histoire contemporaine a été celle de 10 000 soldats russes révoltés qui ont été écrasés par l'armée française à la Courtine dans le département de la Creuse après 3 jours de bombardement et de mitraillage. Mutins, réfractaires, déserteurs, objecteurs de conscience, comment les oppositions aux guerres se sont manifestées dans les conflits et les populations depuis la Première Guerre mondiale, c'est la question à laquelle ont essayé de répondre plusieurs historiens dans le colloque organisé par l'association La Courtine 1917, qui s'est tenu les 4 et 5 octobre 2025 dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine, dans la région parisienne. Étaient présents des historiens, mais aussi des témoins, des militants qui sont intervenus pour, entre guillemets, faire entendre les voix de la paix. C'est ce qu'écrit notre ami René Burger du CIRA Limousin, et qui était présent donc et qui est aussi membre de l'association La Courtine 1917, mais aussi membre, bien sûr, de l'Union Pacifiste. Alors René, d'ailleurs, présentait sur un stand le dernier livre de l'Union Pacifiste, « Abolir l'armée ». Alors vous entendrez dans cette émission d'aujourd'hui deux historiens qui ont ouvert le colloque. Rémi Adam, qui fera un exposé intitulé « Une révolution comme en laboratoire, 1917, la révolte des soldats russes en France ». Et un deuxième historien, Éric Honoble, qui fera un exposé intitulé « Du soldat citoyen au soldat révolté, les partis socialistes et l'armée en Russie en 1917 ». Alors c'est l'association La Courtine 1917 qui a réalisé les enregistrements, nous la remercions parce qu'elle nous permet de les diffuser aussi sur Radio Libertaire. Et nous commençons par écouter l'historien Rémi Adam.
Bien, intitulé de mon intervention reprend en quelque sorte le fil qui m'a guidé depuis le milieu des années 80 lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des deux brigades russes envoyées en France par le tsar Nicolas II en 1916. L'analogie entre le processus révolutionnaire à l'œuvre dans ces unités tout au long de l'année 1917 et les réactions chimiques que l'on peut observer dans la transparence des instruments et le huis clos d'un laboratoire revient à Trotsky. Celui-ci, d'une part, traduisait ainsi le caractère isolé, comme en vase clos, d'une mutinerie se déroulant à des centaines de kilomètres du front et à plusieurs milliers du territoire russe. Mais il exprimait d'autre part l'identité de nature entre la révolte de ces 10 000 soldats et la révolution russe dans son ensemble. Les deux pages consacrées au récit de la mutinerie de la Courtine dans l'histoire de la révolution russe invitaient à pousser les portes de ce laboratoire et à décomposer le tableau de ces éléments chimiques. Traversons donc les principales étapes par lesquelles la révolution s'est frayée inexorablement son chemin. Après un an et demi de guerre, les armées françaises étaient déjà exsangues. Les actes offensives lancées sur le front occidental par un commandement assassin et souvent incapable s'étaient brisées les unes après les autres sur les défenses adverses au prix de pertes effroyables. De la bataille des frontières en 1914 et les 30 000 morts du sanglant 22 août, à la Marne, puis aux contre-offensives de l'Artois et de Champagne de l'année 1915, l'équilibre des forces militaires avait figé les lignes sur des centaines de kilomètres, de part et d'autre de réseaux de tranchées et d'abris. Toute une partie de la jeunesse d'Europe et des empires coloniaux français et britanniques y étaient désormais terrés, avant bien souvent d'y périr. L'enfer de ces combats que témoins, historiens, artistes ont décrit depuis reste le symbole de la barbarie de la première guerre impérialiste engagée pour un repartage du monde. Mais il fut aussi la matrice des révoltes, des mutineries et d'une révolution dont la première vague frappa la Russie en 1917. Pour reconstituer ces unités décimées, le gouvernement français avait engagé dès septembre 1914 la révision des réformés et des exemptés. Entreprise renouvelée l'année suivante, qui maintenait la population sous une menace permanente, mais était tout à fait incapable de résoudre la question des effectifs. Les classes 1915 et 1916 avaient donc été appelées en anticipant leur incorporation, respectivement de 11 mois et d'un an et demi. L'impérialisme français avait largement puisé simultanément dans les forces vives de ses colonies, principalement celles de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique orientale, mais aussi parmi les populations du Maghreb et jusqu'au Kanak de Nouvelle-Calédonie. Les peuples auxquels la République refusait de reconnaître les droits les plus élémentaires et dont elle pillait les richesses, et dont elle allait exiger qu'ils payent l'impôt du sang, et meurent pour une partie, pour une patrie et des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Mais cela n'allait pas sans contestation et révolte. L'idée avait donc surgi dans les ministères et les états-majors alliés de puiser tout aussi naturellement, les termes sont ceux de l'état-major, dans les immenses réserves du réservoir humain russe. La Russie, dépendante des capitaux occidentaux depuis son intégration au marché mondial et son essor industriel, n'était-elle pas devenue une sorte de semi-colonie du capital occidental? En décembre 1915, un premier projet ACTA que l'autocratie, dans l'incapacité de mobiliser et d'armer des millions d'hommes, devrait fournir à la France 1 200 000 hommes pour reconstituer ses rangs et, je cite, « les jeter dans la balance lors des offensives prévues de 1916 ». Dépêché à Petrograd, Paul Doumer eut en charge la partie diplomatique, tandis que le général Pau, chef de la mission française auprès de la Stavka, le commandant suprême de l'armée impériale, fut chargé d'élaborer les conditions techniques du transport et de l'emploi d'un corps expéditionnaire. L'objectif fut cependant vite ramené à 400 000 hommes. Dans son beau roman, trouvé sur une des tables à la sortie, le carnet de Nicolas, Raymond Massaille résume ce troc imposé, je le cite. Les tacticiens de l'Ouest manquaient d'hommes, de tsars, de fusils. Il suffisait de vendre de la chair contre du matériel déclassé et des munitions. Les tractations furent plus délicates que prévu. Elles durèrent jusqu'en janvier 1916, mais le marché fut conclu. Mais si la Russie était entrée en guerre et était passée à l'offensive à l'été 1914 pour satisfaire les exigences franco-britanniques, sa décomposition était déjà si avancée, un an plus tard, que son armée était bien incapable de fournir la quantité de chair à canon demandée. L'ampleur du projet initial aurait également nécessité des capacités de transport et de sécurité inatteignables. L'inertie, voire l'opposition du commandement russe firent le reste. Les négociations aboutirent ainsi à l'envoi de 2 brigades en France, soit environ 20 000 hommes, et 2 autres effectifs identiques vers Salonique et l'armée d'Orient. Dès sa constitution, donc, le corps expéditionnaire reflétait une réalité qui dépassait de très loin son intérêt militaire, réduit désormais à un geste symbolique. La première brigade effectua un voyage éprouvant et tout aussi fascinant de 3 mois. D'abord par le transsibérien depuis Moscou, puis par voie maritime depuis le port de Dairen en Mandchourie jusqu'à Marseille, où elle débarqua en avril 1916, après être passée par Saïgon, Singapour, Colombo, Djibouti et Port Saïd. La 3e brigade parvint durant l'été à Brest et près de La Rochelle en empruntant depuis Arkhangelsk la route plus rapide du Nord. Au lendemain du débarquement de la 1ère brigade à Marseille, en avril 1916, le bourrage de crâne de la presse et des officiels fonctionna à plein régime. Voilà des moujiks, doux et braves, dévoués à Dieu et au tsar, forcément fidèles et obéissants, que le poilu pouvait prendre pour modèle. Le régime ayant voulu en outre constituer un corps d'élite offrant toutes les garanties possibles, beaucoup en son sein avaient été sélectionnés pour leurs aptitudes physiques, voire la couleur de leurs yeux. Dans le vieux port, puis dans la capitale, la foule, à laquelle on expliquait encore qu'ils n'étaient que les premiers soldats d'une chaîne ininterrompue qui devait déverser des dizaines de milliers d'autres hommes, fut invitée à les acclamer et à leur jeter des fleurs. À leur tête, des officiers supérieurs, ici issus de la haute noblesse, des généraux, serviteurs de toujours de l'autocratie, dont certains avaient directement participé à l'écrasement dans le sang de la Révolution de 1905. Et si l'immense majorité des soldats étaient, comme en Russie, d'origine paysanne, la 1ère brigade avait une composition beaucoup plus ouvrière. Des Baltes, des Ukrainiens, des Polonais et les autres composantes de la prison des peuples russes, placées sous son uniforme, complétaient le tableau de ces unités. Jusqu'au printemps 1917, celles-ci combattirent et partagèrent le sort de tous les pauvres couillons du front, comme le disaient les bifins français, avec son cortège de morts, de blessures, visibles ou invisibles. Les messes et les popes, avec leurs icônes transplantées également sur le sol de la Champagne, étaient bien impuissantes à les faire oublier. Courant mars, et malgré la volonté du commandement, paralysé par l'effondrement de son ordre social et de ses valeurs, d'en retarder l'annonce, les soldats apprirent la fantastique nouvelle de la Révolution et de la chute du régime à Petrograd par divers canaux. Des liens ténus avaient été tissés d'une part avec certains militants de l'émigration à Paris, notamment autour de l'hôpital Michelet, à Vanves, où était soignée une partie des blessés des 2 brigades. En dépit des contrôles et de la surveillance dont les Russes faisaient désormais l'objet, des tracts, des journaux, atteignirent également le front, comme l'indiquent les saisies rapportées par la censure postale. D'autres informations, enfin, leur avaient été transmises par les Français qu'ils côtoyaient dans certains cantonnements. La Révolution se jouait de l'absence d'une langue commune. Vint ensuite l'annonce officielle, et, comme dans toutes les unités en Russie même, la prestation de serment au gouvernement provisoire. Le contre-coup de la Révolution se manifesta en premier lieu contre le corps des officiers. Ces barines les avaient méprisés et avaient appliqué avec zèle les châtiments corporels dont l'usage avait été rétabli peu avant la guerre. Le gouvernement provisoire et Kerensky avaient certes dépêché en France des émissaires pour les représenter et apaiser ainsi la colère des troupes, et bien souvent la haine envers les généraux et colonels tsaristes. Ces envoyés prétendirent vouloir collaborer à la réorganisation de l'armée sur des bases démocratiques et dans l'esprit révolutionnaire, et dissiper ce qu'ils appelaient des malentendus. Mais mission leur avait été donnée de raffermir les qualités combatives de l'armée, ce qui ne pouvait que signifier rétablir la discipline pour remettre les unités en ordre de marche sous les ordres de ces mêmes officiers supérieurs. Évoquer le nouveau régime et les avantages futurs que celui-ci procurerait à la population, à condition que la guerre soit terminée, ne pouvait convaincre ces soldats de continuer à obéir sans murmure et de repartir au combat comme si aucun changement d'importance n'était souhaité. Ils réclamèrent leur rapatriement, entendant rejoindre leur famille et vivre pleinement la révolution.
Сердце глупое, не бейся. мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, клевета навек отстань, дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Ах, шестнадцатый проклятый, и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Здесь все буднично и просто, гул войны давно умолк. Лишь часовня над погостом, где пехотный славный полк. Отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Дрались русские бригады за французские поля. Дрались русские бригады за французские поля. Время память усмиряет, слава Богу, что живем. Широка страна родная, где упомнить обо всем. Вен не режем от досады, не зальем тоску вине, что забыты те бригады на забытой той войне. Что забыты те бригады на забытой той войне. Только что-то ноет, тянет, не дает никак уснуть. К золотым полям Шампани жребий выпал, значит, в путь, где душа легионера прозвенит мне, как струна, что могила Сент-Элера, наша русская война. Что могила Сент-Элера, наша русская война. Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань.
Vous venez d'entendre une chanson de Victor Leonidov intitulée Ruski Brigadi, diffusée pendant le colloque organisé par l'association La Courtine 1917. Cette chanson rend hommage aux soldats et aux officiers du corps expéditionnaire russe qui ont combattu sur le sol français pendant la Première Guerre mondiale, et qui, comme le raconte l'historien Rémi Adam, sont devenus gênants pour l'armée française quand ils ont demandé à retourner dans leur pays après la Révolution. Alors nous poursuivons l'exposé de l'historien Rémi Adam sur ce fameux donc corps expéditionnaire russe en France pendant la Première Guerre mondiale.
S'emparant du fameux Prikaz numéro 1, adopté par le soviet de Petrograd sous la pression de la troupe, les soldats élurent eux aussi leurs représentants et créèrent leur propre comité au cours du printemps 1917 à la grande frayeur de l'état-major français. Certains de ces comités décidèrent même que l'offensive à laquelle les unités étaient préparées serait la dernière à laquelle ils participeraient. Et partout, partout, la troupe échangeait, s'éveillait à la politique et surtout gagnait en confiance. Les hommes prenaient la parole pour la première fois. La musique et les chants d'espoir retentissaient dans les cantonnements russes. La révolte, encore sourde jusque-là, éclata au lendemain de l'échec de l'offensive du 16 avril 1917, dans laquelle les deux brigades avaient été jetées par Nivelles. En trois jours, près de 6000 hommes périrent ou furent gravement blessés dans les assauts contre Courcy, Brimont, Donostia et la côte 108. Au même moment, l'armée française fut touchée par une vague de mécontentement, de colère et de mutinerie, d'une profondeur et d'une étendue sans précédent depuis août 1914. Durement saignée, les troupes russes furent retirées du front et éloignées des unités françaises. Le 14 mai 1917, premier mai du calendrier russe, drapeau rouge déployé, portant de nombreuses inscriptions révolutionnaires en cyrillique et en français, les soldats manifestèrent par milliers, conspuant le général Palitsine, commandant du corps expéditionnaire venu s'adresser à eux sur son cheval blanc. Un défilé du 1er mai, donc, sur le front, le fait est resté sans équivalent. Des meetings s'improvisèrent et des porte-paroles s'affirmèrent. À des milliers de kilomètres de la Russie, les mêmes scènes se dessinaient, les mêmes colères, les mêmes aspirations. En urgence, ces unités furent de nouveau déplacées par Pétain, le nouveau chef des armées, une première fois dans les Vosges, puis dans la Creuse, au cours du mois de juin 1917. En les isolant des premières lignes et de la population, les autorités entendaient les ramener à l'obéissance, tout en empêchant le moindre effet de contagion. À cette date, le gouvernement provisoire et plus encore Kerensky conservaient un crédit important. Les soldats espéraient, eux, des changements concrets et rapides de leurs conditions et attendaient fébrilement l'annonce de leur rapatriement. Leur attente fut vaine. Le nouveau pouvoir à Petrograd n'eut de cesse d'exiger leur désarmement et leur soumission aux officiers, pourtant unanimement rejetés, mais soudainement devenus de fervents démocrates, parés de rubans tricolores ou rouges. Méfiants, les soldats refusèrent de se soumettre et d'être désarmés, sans garantie en échange. Kerensky s'adressa à eux en tant que soldat citoyen, rebaptisant ainsi le journal qui leur était dédié en France. Mais que signifiait à leurs yeux être un citoyen s'il fallait rester sans armes pour se défendre contre ses ennemis de l'intérieur ? Le gouvernement français prit la mesure de leur détermination et ne tenta pas d'imposer leur désarmement. C'est donc avec leurs fusils, leurs mitrailleuses et leurs dotations en munitions que les Russes s'installèrent dans le camp de la Courtine entre la fin juin et le début du mois de juillet 1917. Ce furent principalement ceux de la 1ère brigade, arrivés les premiers dans l'enceinte militaire, qui allaient y vivre une expérience tout à fait unique sur le front occidental durant près de 3 mois. Ces soldats ne tardèrent pas en effet à chasser leurs officiers, pas mécontents d'ailleurs d'échapper ainsi à leurs moqueries et à leurs tourments, et s'organisèrent autour de leur comité. Là, en petits groupes, ou lors d'assemblées, réunissant des centaines voire des milliers d'hommes, se discutaient toutes les questions de l'heure. La guerre, le partage des terres dans leur pays, le pouvoir des soviets, l'attitude de la France, dont ils avaient désormais, non sans raison, qu'elle les avait achetés et sacrifiés, contre la livraison de quelques caisses de munitions. Et celle du gouvernement provisoire de Kerensky, son nouvel homme fort. Des leaders et leur audace s'y affirmèrent. Pierre Kiteyev, Ivan Bataïs, Michel Volkov, Afanassy Globa, des soldats du rang, dont plusieurs avaient été blessés au front, mais aussi des sous-officiers, que la guerre et la révolution avaient transformés et qui avaient la confiance vigilante des soldats. Le restant du corps expéditionnaire autour de la 3e brigade et de l'état-major avait été cantonné par le commandement russe à une vingtaine de kilomètres de la Courtine, dans l'espoir d'y attirer les mutins et de les soumettre. Mais d'abord jugée loyaliste, cette unité était sur le point de se décomposer et dut finalement être envoyée le 10 août au camp du Cournot, près de Bordeaux, pour éviter d'être emportée à son tour dans la révolte ouverte sous l'influence des comités de la 1ère brigade. Kerensky, engagé en Russie dans une offensive militaire et politique contre la progression des bolcheviks et de leur mot d'ordre parmi les travailleurs et les soldats, dépêcha ses émissaires à la Courtine. Un nouveau commandant, le général Vankevitch, et plusieurs civils, Rapp, Morozov, Svatikov, nommés délégués du gouvernement provisoire et haut commissaire de la Russie. Ceux-ci firent de grands discours, exaltant la nouvelle Russie et son avenir. Mais ils ordonnèrent à leur tour le désarmement des rebelles et leur retour au front pour y combattre jusqu'à la victoire. Si une infime partie des soldats et de leurs représentants redoutaient l'épreuve de force avancée et quittèrent le camp sous cette pression, l'immense majorité rejetèrent ces exigences. C'était aussi un défi lancé aux autorités françaises, qui auraient bien voulu voir ces troupes, devenues incontrôlables, quitter à jamais le territoire. après 3 mois de face-à-face, de manœuvres, du commandement et d'ultimatum, Kerensky décida de mener l'assaut contre les 10 000 mutins qui étaient encore retranchés dans le camp. Pour mener cette opération militaire, avec canons, mitrailleuses et mouvements de troupes soigneusement préparés, il s'appuya sur une unité d'artilleurs traversant providentiellement la France et se dirigeant vers le front d'Orient. Il disposait ensuite de la fraction du corps expéditionnaire qui stationnait au camp du Cournot et qui demeurait sous l'influence du commandement. Au total, plus de 5000 soldats russes furent ainsi mobilisés pour encercler le camp dans la première semaine de septembre. Une mini-guerre civile se préparait avec la complicité du gouvernement français. Presque au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres de là, les forces de la Révolution et celles de la contre-révolution menées par Kornilov s'opposaient violemment. Malgré la volonté officielle d'intervenir dans l'état intérieur des troupes russes, de ne pas intervenir dans l'état intérieur des troupes russes, réitéré à plusieurs reprises, le rôle des autorités françaises fut prépondérant. Pendant plusieurs semaines, elles exigèrent de Kerensky une solution définitive à la révolte. Et si elles entendaient que le commandement russe assuma les responsabilités de la répression, le gouvernement demeura le commanditaire et le donneur d'ordre. L'armée française fournit par ailleurs une aide déterminante en assurant le transport des troupes d'assaut et en les dotant de plusieurs canons de 75, de leurs munitions et d'un système d'éclairage. 5000 de ces soldats, enfin, formèrent un deuxième cordon autour du camp de la Courtine, au cas où les unités russes chargées de la répression échoueraient dans leur tâche. À l'issue de 3 jours de tirs et de combats, les mutins se rendirent et furent désarmés. L'ordre régnait à la Courtine. Officiellement au prix de 8 morts et 44 blessés parmi les insurgés. Un bilan dont les archives et les témoignages indiquent qu'il est en partie sous-estimé. Plusieurs centaines de soldats furent jetés en prison. Des dizaines d'entre eux, dont les principaux meneurs de cette révolte, furent déportés dans les locaux du fort Liédo de l'île d'Aix. Plusieurs milliers d'autres seront par la suite déportés en Algérie. Plusieurs semaines après l'écrasement de cette mutinerie, le gouvernement français prit de nouveau les choses en main. Il refusa de prendre le risque que se renouvellent, même à petite échelle, des événements de même nature. La révolution d'octobre, accueillie avec enthousiasme par les soldats du corps expéditionnaire, qui y virent une revanche mais aussi l'espoir renouvelé d'un retour tant attendu, rendait impossible leur retour. La République n'entendait pas offrir cette victoire politique aux bolcheviques, qui réclamait ce rapatriement avec la population russe depuis des mois. Le gouvernement français installa donc une base russe à Laval, chargée d'administrer, surtout de surveiller ses contingents. Il leur fut proposé tout d'abord de retourner sur le front, mais à la condition de dissoudre tous les comités de soldats et de se soumettre sans condition à leurs officiers et à la discipline française. Une légion des volontaires, combattant au sein de la division marocaine, fut ainsi constituée avec les quelques centaines d'hommes qui acceptèrent cette offre ou qui y furent contraints. Seule unité russe encore engagée dans la guerre après la paix de Brest-Litovsk, cette légion combattit jusqu'à l'armistice, non sans connaître de nouvelles convulsions dans ses rangs. Et si un bataillon fut recruté au cours de cette même année 1918 et placé sous les ordres du général blanc Denikin, en Russie même donc, une partie passa du côté des Rouges dès leur premier engagement, non sans avoir réglé quelques-uns de leurs comptes avec leur commandant. La presque totalité des anciens soldats du corps expéditionnaire refusèrent de se soumettre de la sorte. Les 2/3 environ des effectifs furent incorporés par petits groupes, dispersés et placés sous une étroite surveillance dans des compagnies dites de travailleurs volontaires. Pendant plus de 2 ans, ils effectuèrent des travaux pénibles, notamment du terrassement et du bûcheronnage, loin du front et des usines, c'est-à-dire de tout contact avec les soldats et la population. Quant aux hommes, refusant également de devenir les vidangeurs des Français, comme ils disaient, soit 5000 hommes environ des 2 brigades ayant combattu en France, ils furent déportés dès janvier 1918 en Algérie vers des compagnies de travail forcées ou dans des camps disciplinaires comme celui de Mercel-Kébir. Leur rapatriement n'interviendra qu'en 1919 et 1920, après un accord avec le pouvoir soviétique passé par l'intermédiaire du Danemark. L'immense majorité exigeait alors explicitement d'être dirigée vers les territoires contrôlés par les bolcheviques. Quelques centaines d'entre eux s'installèrent en France, une partie provisoirement, la majorité définitivement. Et il faut comprendre qu'il y avait au moins un ou plusieurs descendants ici dans la salle. L'étude de cette mutinerie, d'une ampleur, d'une durée et d'une nature sans équivalent sur le front occidental, apporte une série de réponses à tous les détracteurs de la Révolution russe. Au printemps 1917, les soldats du corps expéditionnaire, présentés unanimement par la presse un an plus tôt comme des moujiks obéissants, dévoués au tsar et à Dieu, n'étaient certes pas tous devenus des bolcheviks, des maximalistes, comme on l'écrivait alors couramment. Ils n'étaient pas davantage les jouets dociles des militants ou de la presse de l'émigration avec lesquels des contacts s'étaient noués, notamment dans les hôpitaux au lendemain de la chute de l'autocratie. Et ils étaient encore moins des espions au service de l'Allemagne, comme certains le prétendent encore aujourd'hui. Mais ils étaient, si l'on peut dire, entrés en révolution, rompant définitivement avec l'ordre social que l'armée russe incarnait, ce qui allait les mener par la suite à la rupture avec le gouvernement provisoire dont ils attendirent vainement qu'il changeât leur sort. Une poignée d'entre eux, dont ceux des principaux dirigeants de la mutinerie de l'été 1917, Pierre Kiguéyev et Ivan Baltaïs, avaient des convictions socialistes affirmées avant même de quitter la Russie. D'après les sources soviétiques et certains témoignages de survivants, quelques autres étaient sans doute membres ou du moins proches du Parti ouvrier social-démocrate de Russie avant leur intégration dans le corps expéditionnaire. Le régime tsariste avait d'ailleurs peut-être profité de la formation de ces unités pour se séparer de quelques fortes têtes en 1916. Mais beaucoup étaient surtout suffisamment âgés, entre 30 et 40 ans, pour avoir vécu les événements révolutionnaires de 1905 à peine 12 ans plus tôt. Car ces unités portaient en elles-mêmes, depuis leur formation, les ferments de leur décomposition. Elles étaient faites des mêmes atomes, de la même matière sociale, partageaient les mêmes aspirations profondes à la paix, la même aversion vers le corps des officiers et ceux qui s'en faisaient les serviteurs. La guerre, puis sa remise en cause, jouèrent un formidable rôle de révélateur et d'accélérateur des oppositions sociales qui traversaient la société russe. Celles-ci se trouvaient en outre concentrées sous l'uniforme. Dès l'annonce de la chute du tsar, nul ne pouvait plus exiger du soldat qu'il sacrifiât sa vie pour un régime et des officiers qu'il haïssait. Ce mouvement profond, touchant unité après unité, homme après homme, gagna la quasi-totalité de la troupe, y compris la majorité des éléments qui avaient participé à la répression de la mutinerie de la Courtine en septembre 1917. La lecture de leur correspondance, rendue possible par les archives de la censure postale, révèle une spectaculaire transformation des consciences. Malgré la répression, la dispersion des unités en multiples détachements, la déportation de milliers d'hommes en Algérie, l'enfermement fréquent des hommes suspectés de jouer un rôle d'agitateur et de meneur, la propagande contre-révolutionnaire incessante qu'ils subissaient, les anciens soldats du corps expéditionnaire étaient devenus des défenseurs déterminés de la Révolution d'octobre. Dans leurs lettres, un nombre très significatif de soldats exprime une adhésion aux idées mêmes de cette révolution. La paix, le pouvoir aux travailleurs, l'égalité, la dignité conquise, l'entente entre les peuples contre tous les buveurs de sang. Prisonniers, otages de l'impérialisme français, ils désignent avec une grande précision la responsabilité de la France bourgeoise et de son gouvernement. Pendant la guerre civile, qui s'ouvre au printemps 1918, tandis que la plupart des officiers supérieurs des deux brigades partirent combattir avec Kolchak et Dénikine, ils soutinrent le gouvernement de Lénine et Trotsky, comme ils disaient. Les rouges contre les blancs, la révolution face à la contre-révolution. Ainsi, les hommes, présentés comme les plus fidèles et dotés de toutes les vertus rêvées par le commandement, étaient devenus en quelques mois des représentants de la première révolution ouvrière victorieuse. C'est une leçon sur la façon dont les contradictions qui traversent les sociétés peuvent, notamment dans les situations de guerre, accélérer le cours de l'histoire, puis le bouleverser. Et c'est un formidable espoir pour tous les peuples qui, de la Russie à l'Ukraine, en passant par la Palestine, Israël, la République démocratique du Congo ou encore le Soudan, subissent aujourd'hui le talon de fer du militarisme et de l'impérialisme.
Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь, не за награду, к клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Ах, шестнадцатый проклятый, и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Здесь все буднично и просто, гул войны давно умолк. Лишь часовня над погостом, где пехотный славный полк. Отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Дрались русские бригады за французские поля. Дрались русские бригады за французские поля. Время память усмиряет, слава Богу, что живем. Широка страна родная, где упомнить обо всем. Вен не режем от досады, не зальем тоску в вине, что забыты те бригады на забытой той войне. Что забыты те бригады на забытой той войне. Только что-то ноет, тянет, не дает никак уснуть. К золотым полям Шампани жребий выпал, значит, в путь. Где душа легионера прозвенит мне, как струна, что могила Сент-Элера, наша русская война. Что могила Сент-Элера, наша русская война. Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмелон, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu dans la première partie de notre émission l'exposé intitulé « Une révolution comme en laboratoire, 1917, la révolte des soldats russes en France ». Exposé que l'historien Rémi Adam a prononcé le 4 octobre 2025 dans les locaux de l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine dans la région parisienne, au cours du colloque organisé par l'association La Courtine 1917. Vous avez entendu aussi une chanson de Victor Leonidov qui célèbre les artistes russes qui ont quitté leur pays et se sont installés dans différents pays étrangers, et notamment la France. Alors Victor Leonidov est historien, il est aussi archiviste, collecteur d'archives d'émigrés russes et directeur des archives et de la bibliothèque de la Fondation culturelle russe. D'ailleurs, on va entendre d'autres chansons de cet auteur dans l'émission. Mais maintenant, nous allons écouter l'exposé de l'historien Éric Honnoble, intitulé « Du soldat citoyen au soldat révolté, les partis socialistes et l'armée en Russie en 1917 ».
Donc, Rémi nous a présenté un modèle de laboratoire du rôle des soldats dans la Révolution russe. On va essayer une observation in situ, en plein champ. Pour ça, je vais commencer par vous projeter deux extraits d'un film assez ancien, Docteur Jivago, qui avait eu beaucoup de succès en son temps. Et alors, je suis désolé pour la mauvaise qualité du son. Alors, dans ce film de 1965, vous avez deux éléments. La description de la révolution russe comme étant une révolution des soldats. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé par les témoins de l'époque et qui est largement confirmé par les historiens, même si pendant longtemps on était un peu fixé sur cette représentation de la révolution russe comme une révolution ouvrière et paysanne, en masse c'est plutôt une révolution de soldats. Deuxième élément, le bolchevique qui, le jour de la déclaration de la guerre, s'engage dans l'armée sur ordre du parti parce qu'il sait que dans 3 ans, les soldats se révolteront et qu'à ce moment-là, il faut des militants passer. Ce qui est intéressant dans cette représentation qui est typique de la guerre froide, c'est que, aussi bien du côté soviétique que du côté occidental, on pouvait adhérer sur ce côté du parti tout-puissant. Du côté occidental en disant que c'était le totalitarisme et du côté soviétique en disant que c'était bien la preuve de la préscience du parti. C'est ça que je vais essayer de discuter à partir de la ville de Kharkov qui est une grande ville au sud-ouest de l'Empire russe, aujourd'hui Kharkiv en Ukraine. Je me suis fondé sur les 3 journaux socialistes qui paraissaient dans la ville en 1917 et qui ont été conservés. Zemlya i Volya, Terre et Liberté, c'est l'organe local du Parti Socialiste Révolutionnaire qu'on qualifie de populiste. Alors ça ne fait référence, ça n'a rien à voir ni avec Trump ni avec Mélenchon. Le populisme russe, Narodnichestva, c'est l'idée d'une révolution qui unirait toutes les basses classes, c'est-à-dire essentiellement les paysans et les ouvriers. Et en exergue du titre, il y a marqué « Par la lutte, tu obtiendras ton droit ». Deuxième journal, le Social-Démocrate, c'est l'organe de la fraction menchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe, sachant que nous sommes à une époque où social-démocrate est synonyme de marxiste. Et troisième journal, le Proletari, le prolétaire, qui est là l'organe local de la fraction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe, marxiste lui aussi. Alors d'abord, il faut se rendre compte de l'influence de la guerre sur la vie d'une ville comme Kharkov, qui fait 250 000 habitants à l'époque. Globalement, à l'échelle de la Russie, il y a 10 millions d'hommes qui sont sous l'uniforme en 1917. Ça correspond à 7 millions au front et 3 millions à l'arrière. Ça veut dire qu'il y a donc des Kharkoviens qui sont au front, et il y a des séries de cartes postales qui sont censées les représenter. Ça veut dire qu'ils ont une famille qui est restée, avec entre autres les femmes de soldats. En russe, on dit les soldats, qui les soldates. Et il faut savoir que le début de la révolte contre le tsarisme à Petrograd, en février 1917, c'est les femmes de soldats qui se plaignent de vivre dans la misère. Et dès que le tsar est renversé, vous avez des premières assemblées de femmes de soldats qui sont rapportées dans la presse socialiste à Kharkov. Dans les militaires qui sont à l'arrière, vous avez les blessés. Et la presse, auparavant, raconte que dès l'été 1914, Kharkov devient une ville hôpital. Et donc, il y a, je crois, l'équivalent de 5 ou 10 régiments de blessés. Alors, je dis régiments parce que même blessés, ils sont toujours dans la hiérarchie militaire, sauf que c'est le médecin militaire qui est considéré comme le chef de l'unité. De plus, vous avez toujours dans la ville de Kharkov sans doute 50 000 hommes dans des régiments ou bataillons de réserve. Il y en a 9, cavalerie, artillerie, infanterie, défense territoriale. Donc sur une ville de 250 000 habitants au début de la guerre, vous avez 50 000 soldats sous l'uniforme en 1917 stationnés sur place. Sachant que les réservistes, en fait, ils sont là pour combler les pertes au front. Le front est à 500-600 km dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine de l'Ouest. Et donc, on a y compris dans la presse socialiste des lettres de soldats au moment de partir sur le front. Nous sommes envoyés au front et nous en lançons, nous donnons notre salut à nos camarades qui restent à Kharkov. Mais il n'y a pas que des militaires. Il y a 45 000 réfugiés de guerre, donc qui, pareil, c'est l'ouest de l'Ukraine, ils viennent de l'ouest de l'Ukraine actuelle, qui sont à Kharkov, sachant qu'au début de la guerre, on était monté à plus de 100 000 ou 200 000. Donc imaginez ce que ça veut dire pour la vie d'une ville comme déséquilibre. Il y a y compris des ouvriers polonais qui se retrouvent avec leurs usines évacuées à Kharkov. Et enfin, des prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois qui existent. Ils, eux aussi, envoient des lettres aux journaux socialistes en saluant le combat de leurs camarades russes et en disant qu'eux aussi veulent se battre pour la liberté, le socialisme et la paix. Rémi en a parlé. Ce qui va catalyser la révolution des soldats, alors soldats qui ont participé au renversement du tsar et à l'insurrection contre le tsar, c'est le prikaz, l'ordre numéro 1 du Soviet de Petrograd, donc Soviet Conseil, conseil des députés, ouvriers et soldats, qui est d'abord réuni, à l'origine c'est des militants qui ensuite provoquent des élections un peu partout. Et donc le 1er mars 1917, cet ordre est lancé. Le 1er mars, le tsar n'a toujours pas abdiqué, il abdique le lendemain, et c'est le lendemain qu'est formé le gouvernement provisoire. Donc dans cet ordre numéro 1, on statue que toutes les unités militaires doivent élire des comités, que toutes les unités militaires sont désormais subordonnées aux soviets pour toutes les affaires politiques, et qu'en dehors du service, les soldats doivent avoir tous leurs droits politiques, civils et privés, et que le salut militaire hors service, quand vous croisez un officier, est aboli. De cet ordre numéro 1, il n'y a que ce dernier point qui passe dans la presse de Kharkov, en tout cas de ce que j'ai trouvé, un petit entrefilé disant « le salut est aboli ». Je crois que les soldats le savaient déjà et ne le pratiquaient plus. Ça veut dire qu'il y a une vie politique intense qui se développe dans l'armée, à l'arrière et au front. Pour vous donner une idée, la presse rapporte en juin une nouvelle qui vient du soviet de soldats de Minsk, en Biélorussie actuelle, où on annonce les tournées de propagande faites par des leaders socialistes au front, parmi lesquels Trotsky, je ne le présente pas, mais aussi Plekhanov et Liber, qui sont des leaders mencheviques et plutôt de la droite menchevique, qui sont pour l'Union sacrée. Encore une fois, tout ça est totalement organisé. C'est-à-dire que quelqu'un comme Trotsky, qui est totalement contre la guerre, a la possibilité d'aller faire des meetings au front. Et je vous prends cet exemple-là parce que c'est un nom connu, mais ça se passe à toutes les échelles. Et ça veut dire que mes 9 bataillons de réserve qui sont à Kharkov vont eux aussi organiser des meetings politiques avec les militants de différents partis et s'adresser aux partis en disant « envoyez-nous des militants, envoyez-nous des journaux, les unités du front font la même chose ». Alors, ça pose la question de savoir quel est le rôle des soldats dans la révolution. Alors là, on voit une manifestation au printemps 1917. Donc vous avez la colonne des soldats au milieu et la foule autour. On est dans le centre de Kharkov, ça n'a pas tellement changé excepté les bombardements russes. Alors, quelle place pour les soldats ? Les soldats se posent volontiers, de par leur participation à l'insurrection de Petrograd qui a renversé le tsar, en héros de la patrie enfin libérée. Ce qui ne veut pas forcément dire une opposition à la guerre. C'est-à-dire que les soldats expriment massivement une volonté de paix, mais être pour la paix et être contre la guerre, il y a une nuance. Et y compris chez certains soldats, comme dans la presse de droite et comme dans la presse alliée, vous avez l'idée que maintenant que les soldats russes sont libérés du tsarisme, ils vont se battre comme les Français, par patriotisme citoyen. Donc ça, c'est une éventualité sur le rôle des soldats. Deuxième éventualité, est-ce que les soldats sont les alliés des ouvriers ? Alors, première chose, dans les soviets, au début, en février-mars, il y a deux fois plus de députés soldats que de députés ouvriers. Savoie à Petrograd, Savoie à Kharkov, ou le premier soviet, de mémoire, vous avez 280 députés soldats pour 132 députés ouvriers. Sauf que très rapidement, dans tout l'ex-empire russe, la presse de droite fait une campagne contre les ouvriers en disant « voilà, ils se mettent en grève, ça veut dire moins de munitions au front, donc ils sont en train de vous laisser tomber ». Et y compris à Petrograd, j'ai pas trouvé la trace de ça à Kharkov, il y a des patrouilles de soldats qui vont dans les usines pour forcer les ouvriers à travailler. Et là, on est en mars 1917, juste après la chute du Tsar. Donc ça commence très mal. De plus, les soldats sont majoritairement paysans, et il y a toute la question de savoir si la paysannerie doit suivre la classe ouvrière ou s'exprimer de façon autonome. Et ça aussi, c'est des choses qui se discutent. Et du côté des militants ouvriers, c'est pas forcément simple. Et chez les Mencheviks, j'ai trouvé une lettre de lecteur disant « Vous allez peut-être me considérer comme un vieux croyant, c'est-à-dire quelqu'un attaché à la foi ancienne, mais en tant que marxiste, je considère que la soldatesque n'est pas une classe sociale. » Et que, grosso modo, ils doivent suivre les ordres du parti ouvrier et pas prendre des décisions par eux-mêmes. Alors, maintenant, l'évolution de l'opinion des soldats. Ça commence très fort parce que donc le soviet de Petrograd a fait cet ordre numéro 1 donnant des droits politiques extrêmement larges aux soldats. C'est suivi par un appel au peuple du monde entier, donc reproduit en français pour le 1er mai 1917 par les petits groupes internationalistes en France. Appel du soviet des députés ouvriers et soldats de Russie aux prolétaires de tous les pays. En vous tendant la main au-dessus des montagnes de cadavres de nos frères, par-dessus les océans de sang et de larmes, par-dessus les ruines fumantes, nous vous engageons à renouveler et à consolider l'unité internationale. C'est en elle que repose la garantie de notre victoire future et de la libération intégrale de l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'on a en vue, c'est le renversement du capitalisme. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est signé par quelqu'un qui, dans l'historiographie, est unanimement présenté comme un socialiste ultra-modéré, c'est un Menchevik, président du Soviet, Tchekhéïdze. Extrêmement modéré pour l'époque en Russie. Le tract est interdit en France. Donc, ça vous met le niveau de départ des revendications, et donc, quand les soldats réclament la paix, c'est dans un cadre qui est le cadre du socialisme révolutionnaire de l'époque, avec dénonciation de l'impérialisme, de la responsabilité des capitalistes, etc. etc. Là en plus c'est du muet, donc devrait pas y avoir de mal. La séquence suivante, alors c'était pas ça que je voulais, voilà, la séquence suivante qui va d'avril à juin. Voilà, il n'y a pas besoin du son. C'est dans Octobre d'Eisenstein, qui est un film qui n'a pas que des qualités, où on vous représente cette, un moment de fraternisation, ça correspond aux fêtes de Pâques orthodoxes. C'est une réalité, la presse en parle. Donc, les soldats sortent des tranchées de part et d'autre. Les Allemands donnent de l'alcool aux Russes, ça a été vérifié dans les archives. Et les Russes donne de la brioche aux Allemands, mais en fait c'est la brioche de Pâques orthodoxe, c'est la Pâque. Et donc vous avez ces fraternisations avec de la vie de tout le monde, assez peu d'utilisation militaire par les officiers allemands, c'est-à-dire il n'y a pas eu de bombardement. Sauf que donc tout se passe très bien. Le meeting, et ça aussi c'est documenté à l'époque dans la presse, des meetings, alors on essaye de trouver quelqu'un qui parle allemand chez les Russes ou quelqu'un qui parle russe chez les Allemands, où on s'explique par geste, ça aussi c'est dans la presse de l'époque. Sauf que, quelques jours plus tard,
le ministre du gouvernement provisoire des Affaires étrangères, qui est un ministre de droite, envoie une note au gouvernement allié comme quoi ils vont rester fidèles à l'alliance, respect des engagements, guerre jusqu'à la victoire. Et alors ce ministre va sauter tellement c'est un scandale de déclarer ça, sauf qu'au mois de juin, il y a réellement une offensive qui est lancée, et évidemment l'offensive, c'est la fin des fraternisations mécaniquement, c'est-à-dire les gens se tirent dessus, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, tout ça, ça correspond globalement à la réalité historique, fraternisation. Alors, sauf que ce que ne montre pas l'extrait, c'est qu'après la démission du ministre des Affaires étrangères de droite, il y a eu un gouvernement de coalition où sont entrés des ministres du Parti Socialiste, un ministre du Parti Socialiste Révolutionnaire et un ministre menchevique. Et Kerensky, qui était socialisant, devient le ministre de la guerre et il est socialisant. C'est-à-dire que là, vous avez toute une partie du mouvement socialiste qui reprend à son compte les objectifs de guerre du gouvernement tsariste, puis de la droite libérale.
Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, парижский пригород Медон, Белгород и северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю, и тени храмов в Харбине, и Троицу на Рюдарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано не в стройбулоне Бенкур, перед заводами Рено. Я там услышу разговор, пардон, маншер, же парлирюс, и аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, но не вернувшимся назад, и ни в Москве, ни на Дону, лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, в парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис.
Vous avez entendu le début de l'exposé de l'historien Éric Aunoble, intitulé « Du soldat citoyen au soldat révolté, les partis socialistes et l'armée en Russie en 1917 ». Cet exposé a été prononcé le 4 octobre 2025 dans les locaux de l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine dans la région parisienne, au cours du colloque organisé par l'association La Courtine 1917. Bon, eh bien, nous écoutons la suite.
Et c'est dans ce cadre-là que ce sont des socialistes, y compris d'ailleurs des socialistes français venus faire des tournées en Russie, qui vont prêcher aux soldats au front et à l'arrière le fait qu'il faut continuer la guerre. Dans la presse, ce qui ressort, c'est une montée de la réaction au sein de l'armée. On commence à parler de l'amiral Kolchak, qui va être un des grands dirigeants de la contre-révolution blanche. Il est à l'époque le dirigeant de la flotte de la mer Noire et il fait des déclarations, y compris à un moment, il y a la rumeur qui court que la flotte de la mer Noire ne reconnaît plus le gouvernement provisoire parce qu'il est trop à gauche. Parallèlement à ça, dans l'armée, des pogroms contre des soldats juifs dans l'armée, organisés par des officiers. Ça c'est au front, à Kharkov, ça se traduit par le fait qu'il y a l'enterrement d'un soldat juif et que dans le cimetière, quelqu'un fait une réflexion en disant « c'est encore un lupin qu'on enterre ». Et là aussi, il y a une protestation qui est publiée dans la presse. Sauf que ça a un effet, il y a une véritable reprise en main de l'armée à ce moment-là. on ne voit plus de critique frontale de la guerre apparaître dans les résolutions prises dans les régiments.
Alors, la rumeur que vous entendez, c'est qu'il y a une célébration d'un mariage dans la salle de mariage.
Voilà. Très bien. Voilà. Donc, les soldats ne s'autorisent plus à critiquer la guerre frontalement et on voit apparaître de nouvelles revendications. Des revendications sur l'égalité face à la mobilisation avec des articles ou des résolutions intitulées « Les bourgeois dans les tranchées ». Au sein des régiments de réserve, une résolution où les appelés disent « Envoyez les engagés au front, pas les réservistes ». Parce que dans notre régiment, on a des engagés, ça fait 3 ans qu'ils sont à l'arrière, ils n'ont jamais été se battre. Donc c'est leur tour. Et au front, la cassure entre officiers et soldats, elle se mesure par des soldats qui disent « Il y a beaucoup plus proportionnellement de blessés chez les soldats que chez les officiers, y compris attaque au gaz, pas un seul officier de touché, parce qu'ils étaient restés dans leur abri souterrain avec 2 ou 3 portes fermées. » Donc, plus de critique de la guerre, mais une critique de l'inégalité face à la guerre. L'offensive de juin a lieu, c'est une catastrophe. Et à partir de là, les défaites de l'armée russe s'enchaînent. Et donc, là, la question qui ressort partout, c'est la faute à qui ? Alors, les patriotes, dont des soldats et des soldats du rang, vont dire c'est la faute des lâches, parce qu'il y a eu débandade d'unités entières russes. Chez les officiers qui se radicalisent vers la droite, c'est la faute aux soldats. La presse de droite dit « c'est la faute aux bolcheviques ». Et on a quelques rapports de soldats du front qui disent « non, c'est la faute au commandement qui est complètement incompétent. On nous dit de sortir pour aider une autre unité, mais cette unité-là, elle a déjà reculé et on n'a pas de munitions ». Donc on voit que ça part un peu dans tous les sens, sur fond de défaite. Et là, c'est là où il ne faut pas idéaliser et simplifier les choses. C'est que ces défaites provoquent un mécontentement, mais le mécontentement, il peut partir dans tous les sens. Par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine, les troupes russes reculent et abandonnent la ville de Kaloush. Avant de l'abandonner, que font les troupes russes ? Un pogrom. S'attaque aux juifs. Alors, c'était une tradition de l'armée russe depuis 1915. Il y avait eu de nombreux pogroms militaires, c'est-à-dire faits par des militaires dans le cadre de leurs fonctions. Mais là, c'est même plus quelque chose qui est tant soit peu organisé d'en haut. C'est entre guillemets spontané, c'est-à-dire c'est à l'échelle des unités, c'est-à-dire c'est les officiers qui font ça. La désertion prend de l'ampleur, mais désertion qui existe déjà depuis plusieurs mois. Dans un journal de Kharkov du 26 mai, je lis « Ces derniers jours à Kharkov, des patrouilles armées font la chasse aux déserteurs ». Et là, vous avez une des rares photos visiblement authentiques représentant un soldat essayant d'empêcher deux de ses camarades de déserter. Mais ça prend de l'ampleur à l'été. Et surtout, je parlais de pogroms et de désertions. Ben, en fait, il y a des pogroms dans la ville de Kharkov à l'extrême fin octobre. Cela fait 3 jours... extrême fin septembre, pardon. Cela fait 3 jours que l'agitation règne dans les rues. Les cris « Abat les Juifs », et ce serait plutôt « Abat les Youpins », se mêlent au slogan « Dieu sauve le Tsar ». Mais le journal menchevique dit « Mais cette foule, cette masse, de qui était-elle composée ? Elle était composée de soldats, de vrais soldats, et non de vandales, et non de partisans des agitateurs d'extrême droite. » Et au final, il y a un mort, un cordonnier juif, et dans la presse menchevique, vous avez une collecte pour ses obsèques. Donc, cette désagrégation ne s'exprime pas seulement par un refus de la guerre, mais ça s'exprime aussi par un refus de la guerre et une radicalisation politique. Remise en cause des socialistes modérés au sein des comités de régiment et des soviets. Lettre de l'armée d'active, camarades, membres élus des comités représentants du peuple, que faites-vous ? Travaillez-vous ou nous avez-vous complètement oubliés ? les soldats ne pensent plus qu'à la paix. Donc il y avait eu cette première poussée en mars. À partir de l'été, on ne peut plus l'arrêter. Un officier constate, de quoi pouvons-nous bien leur parler alors qu'ils ne disent qu'une seule chose, la paix, la paix, la paix. Ils ne veulent rien savoir d'autre. Et c'est dans ce cadre-là que le journal socialiste révolutionnaire publie le 30 septembre 1917 un appel de la flotte de la Baltique, lever le drapeau de l'insurrection, vive la révolution mondiale, vive la paix juste et universelle, vive le socialisme. Alors la flotte de la Baltique avait élu majoritairement des bolcheviks, ce qui nous amène à poser la question du rôle des différents partis socialistes. Première chose, en mars-avril, les trois partis socialistes dont je vous parle sont sur la même ligne politique, bolchevique, menchevique, socialiste révolutionnaire. Je cite, « La paix est l'affaire des travailleurs de tous les pays. La guerre a été déclenchée par les capitalistes, les propriétaires terriens. Ils l'ont commencée, c'est à nous de la terminer, nous les travailleurs de tous les pays belligérants et neutres. » Ça fait très marxiste. Ben non, c'est les socialistes révolutionnaires, ces fameux populistes. Autre déclaration, en ornant nos bannières révolutionnaires du slogan « À bas la guerre », nous n'appelons pas notre armée à déposer les armes et à rentrer chez elle, nous n'appelons pas les ouvriers à abandonner leur travail pour la défense. Alors là, ça vous fait réformiste mou, eh ben non, c'est les bolcheviks. On est avant le retour de Lénine. Autre argument d'ailleurs pour dire on est pour la paix mais on ne va pas être contre la guerre, ça j'ai trouvé ça dans la presse menchevique, c'est extraordinaire, c'est donc on ne va pas on est pour la paix, mais on ne va pas appeler à arrêter la guerre, de la même façon que nous sommes contre l'exploitation capitaliste, mais que nous n'appelons pas les ouvriers à arrêter de travailler juste comme ça. Voilà, donc c'est ce type de raisonnement. Alors, du côté bolchevique, ça change avec le retour de Lénine, mais ça met un mois. Et c'est-à-dire qu'au début, les interventions de Lénine sont publiées dans le journal bolchevique de Kharkov, mais avec la mention de « la rédaction n'est pas d'accord avec certains points du camarade Lénine ». Et puis même avant ça, il y a des trucs où on dit « le camarade Lénine est revenu, on est content, c'est notre grand leader, il a dit qu'il était pour le socialisme, pour etc. etc. » Mais sans dire tous les trucs où Lénine n'était pas d'accord avec les autres, c'est-à-dire renversement du gouvernement provisoire et paix immédiate. À partir de la fin avril, par contre, les choses sont claires. Sur les fraternisations, c'est les bolcheviks qui publient des articles sur les fraternisations, alors que les autres en parlent très peu, et ils les défendent. C'est en vain que les représentants de la bourgeoisie crient à l'occasion des fraternisations à la trahison. Selon leur psychologie, c'est une trahison de fraterniser avec les esclaves de Guillaume. Ils ne peuvent pas comprendre que pour nous, la division se fait selon un autre critère, c'est-à-dire non pas un critère national, mais un critère de classe. Et même par rapport à la désertion, fin mai, quelle est la position des sociaux-démocrates ? Les bolcheviks sont sociaux-démocrates vis-à-vis des déserteurs et de la désertion. La guerre n'a pas changé, elle reste une guerre impérialiste de pillage. Nous refusons de lutter contre la désertion, ce qui était quand même loin d'être évident et ce qui n'était pas le cas des autres socialistes. Et parallèlement, on observe une droitisation des mencheviks, alors même qu'à Kharkov, c'est l'aile gauche menchevique qui tient le journal et l'organisation. Mais même cette aile gauche publie, c'est la seule fois où ils mettent une illustration dans leur journal. C'est la seule fois où ils mettent une illustration dans leur journal, c'est de la publicité pour l'emprunt de guerre appelé « emprunt de la liberté ». Et surtout, les mencheviks, construisent leur opposition aux soldats. À propos des pogroms de fin septembre de Kharkov, il faut mentionner d'autres raisons à ces pogroms. Des slogans grossiers, irresponsables, anarcho-syndicalistes ont remplacé la véritable éducation politique des masses de soldats, masses ignorantes et parfois sauvages et incultes. Donc il y a une théorisation et une vraie peur de la colère d'en bas chez les mencheviks. Les SR, eux, ont tendance à se gauchiser, et d'ailleurs, tous les responsables de l'organisation socialiste révolutionnaire de Kharkov finiront par adhérer au parti bolchevique. Alors ils seront solidaires des bolcheviks pendant toute la période 1917-1920, et ils adhéreront finalement au parti bolchevique vers 1920. pas tous, certains, et ça c'est intéressant, c'est qu'on voit apparaître dans la presse SR de plus en plus d'articles en ukrainien qui promeuvent la création d'un État ukrainien qui passe par l'ukrainisation de l'armée. Alors, sans rentrer dans le débat sur l'indépendance de l'Ukraine à l'époque, ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue de la guerre et de la révolte des soldats, bolchevisme ou nationalisme ukrainien, c'est kiff-kiff, c'est la fin de l'armée russe. C'est-à-dire que qu'on transforme l'armée russe en armée rouge ou en armée ukrainienne, ce n'est plus l'armée de l'État russe. Et donc ça veut dire que les deux tendances les plus radicales de l'époque, ça va être ça. Pour finir, comment est-ce que la révolution de la soldatesque a triomphé ? Parce que la révolution de février était d'emblée extrêmement radicale, avec un agenda socialiste qui était le résultat, alors Rémi en a parlé, de la révolution de 1905, mais là justement, globalement, quelles que soient les tendances socialistes, et il y en avait des tas d'autres que je n'ai pas mentionnées, il y avait quand même cette idée que les classes pauvres devaient prendre leurs affaires en main, renverser le système et prendre ses affaires en main, c'était prendre le pouvoir à tous les niveaux en partant de l'atelier, de la terre et du régiment. Les soldats ont conquis le droit à l'auto-organisation dès le début et ça rendait la réversibilité de la révolution difficile. Les défaites militaires ont favorisé la désagrégation de l'armée, mais j'ai rappelé que la désagrégation, elle pouvait partir vers des pogroms ou vers la lutte contre la guerre. Les bolcheviques, en fait, ils sont restés fidèles à l'agenda de février, à l'agenda socialiste, mais par contre, ils ont rompu le consensus patriotique et ils ont polarisé l'armée, y compris en organisant des sections militaires. Alors, malheureusement, donc je me sens forcément très concerné par la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, dans tout ce que je viens de vous dire, je vois assez peu d'éléments utilisables. Par contre, il y en a un que j'ai mentionné qui est tout à fait actuel, c'est la lutte contre l'inégalité face à la guerre qui mobilise des gens en Ukraine actuellement contre la mobilisation, qui est une mobilisation, on appelle ça la bussification. C'est-à-dire qu'on ramasse des gens dans la rue, on les fait monter dans un minibus, direction le centre d'entraînement et au bout de 40 jours au front. Mais sauf qu'à côté de ça, il y a ce que les Ukrainiens appellent le bataillon Monaco, c'est-à-dire les oligarques qui sont à Monaco et qui sont de grands patriotes très très loin des tirs. Et en Russie, vous avez aussi ce genre de phénomène-là.
Я сошел с ума, мне чудится через стекло, смеется надо мной луна, так нагло щерится и зло. А месяц был бы подобрей, ребенок милый и простой, и я ему бы спел о ней, о той, что рядом нет со мной. Холодно. Без рук твоих мне очень холодно. Волоком тоска связала, как лоза с полохом. Любовь твоя мелькнула с полохом. Как я волос касался золота, как целовал твои глаза. А смех гуляет по вискам и бьет до удури до слез, а мне рвануться в небеса и там услышать шепот звезд. И в беспредельной вышине мне все, конечно, объяснят, и я пойму, по чьей вине я разберу, кто виноват. Холодно, без рук твоих мне очень холодно. Тоска связала, как лоза с полохом. Любовь твоя мелькнула с полохом. Как я волос касался золота, как целовал твои глаза. Там, где сияет Млечный путь, я вижу тени его крыла, и что ему тебя вернуть, ведь ты жива, не умерла, и я пока еще живой, или нас обоих нет давно, и нам не встретиться с тобой, лишь растворенное окно. Но даже там, где звездный дождь, ты все равно меня не ждешь. Холодно, без рук твоих мне очень холодно. Волоком тоска связала, как лоза с полохом. Любовь твоя мелькнула с полохом. Как я волос касался золота, как целовал твои глаза с полохом. Любовь твоя мелькнула с полохом. Как я волос касался золота, как целовал твои глаза.
Alors avec cette chanson de Victor Leonidov, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous rappelle que vous avez entendu aujourd'hui les exposés de deux historiens. L'exposé de Rémi Adam intitulé « Une révolution comme en laboratoire 1917, la révolte des soldats russes en France » et l'exposé d'Éric Honnoble intitulé « Du soldat citoyen au soldat révolté, les partis socialistes et l'armée en Russie en 1917 ». Ces exposés ont été prononcés le 4 octobre 2025 dans les locaux de l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine dans la région parisienne au cours du colloque organisé par l'association La Courtine 1917. Alors bien sûr que je vous conseille d'aller visiter le site de cette association La Courtine 1917 sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses informations sur les activités culturelles de l'association. Activités qui sont essentielles d'ailleurs pour conserver la mémoire et l'histoire des soldats russes en France pendant la Première Guerre mondiale. Alors, comme vous le savez, à l'Union pacifiste, aujourd'hui, nous soutenons tous les jeunes hommes russes qui s'exilent pour échapper aux guerres menées par le dictateur Poutine, ainsi qu'à tous les déserteurs qui ont fui à l'étranger. Et nous, d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler dans de prochaines émissions. Alors je remercie bien sûr à nouveau l'association La Courtine 1917 de nous avoir fourni ces enregistrements. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Берег русский, как он близко. Здесь мы жили только вот. Срёвом от Новороссийска отплывает пароход. Гарь сожжённая имений, кровью полита земля и дворянских поколений. Уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль, и чьё-то сердце рвётся вдаль. Как срывали с нас погоны в том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет и сгорело в огне гражданской. Брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю, все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шла в Орел и Перекуп, лагеря, потом в Галлиполи. Все обратно нет дорог и в Париже, и в Стамбуле. Нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой. Мы опять в Первопрестольной, мы гуляем по Тверской. Снова живы, брат, родители, Я беспечный, молодой, мне сияет храм Спасителя. Улыбается страстной, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет.
Laissez-moi vous rappeler ce qui l'autre jour est arrivé. Hé hé hé, dans Paris qui est si beau. Le 23 mars, ils défilaient, ils étaient venus de Lorraine. Quand la manif s'est achevée, il y avait des cellules pleines. Flagrant délit, ça peut faire mal, ça frappe vite et sans pitié. Quelques jours plus tard, au tribunal, ont comparu les inculpés. Jugement, appel, j'ai lu tout ça. Protestation des avocats. Des responsables, faut en trouver. Faisons confiance aux policiers. Hé hé hé, dans Paris qu'est si beau. C'est sur la seule déposition des agents qu'ont de la morale que les juges donc se baseront pour rendre leur justice impartiale. Coupables, les trois dont ils ont dit, Cargneux, il lançait des cailloux. Premier, avec ses sabots pardis, avait prémédité son coup. L'autre, naïf, prétend que dans la foule, il cherchait un parent. Troisième, doux, calme jusque-là, n'était rien d'autre qu'un sournois. Ha ha ha. Dans Paris qu'est si beau. À la trappe, celui qu'on accusait d'avoir incendié une banque, qui par ailleurs n'a pas brûlé, brave juge, le temps lui manque. Deux ans tôle, en un demi-quart d'heure, c'est un record. Le pauvre gars peut bien gueuler, c'est une erreur. Moi, je sortais d'un cinéma. Un seul peinard fut relaxé. Deux flics épris de vérité récitèrent si bien leurs leçons qu'ils firent naître de petits soupçons. Oh, oh, oh. Dans Paris qu'est si bon. Vinrent ensuite les bandits, les pilleurs de la ville lumière. Premier charognard à l'épris, un abat-jour tombé par terre. Un enferme pour l'Égyptien, pour les voleurs de pantalons, pour l'Ivoirien, pour l'Algérien, qui voit à l'ombre et sans pardon. Faut pas ramasser des vêtements dans les vitrines brisées des blancs. Donc content de prendre le travail, il vient de foutre la pagaille. Aïe, 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 dans Paris qu'est si beau. J'ai voulu, dans cette chanson, parler de gens sans importance. Parce que l'autre jour, j'ai vu leur nom dans un journal venu de France. On s'indignait, on répétait, c'est pour l'exemple qu'on condamne. Tout le monde le sait, tout le monde se tait. Moi, je fais que chanter, monsieur, madame. Ceux qui disent, chacun chez soi, diront que ça ne me regarde pas. Moi je répondrai que ça m'a fait mal de voir ce qui se passait. Dans Paris qui est si bon.
Y'avait dans la gorge à Jimmy tant de soleil à 300 balles, du blues, du rêve et du whisky, tout comme dans les bars à Pigalle. Dieu est nègre, c'est à la une des quotidiens.
Enfin, c'est Jazz Libre Radio Libertaire en direct des studios, ça faisait un petit moment. N'oubliez pas que de télécharger la souscription, car comme je vous l'annonce depuis un petit moment, vous avez notre cher ministre de la Culture qui n'aime pas beaucoup les radios libres, enfin certaines plus que d'autres, et donc nous risquons à terme peut-être de disparaître, donc nous comptons sur votre générosité pour maintenir les émissions et la radio en elle-même, voilà. Changer le matériel, tout ça coûte cher, la location de l'antenne, le diffuseur comme on dit. Bref, donc en cette veille de Noël, je vous souhaite évidemment de passer les meilleurs possibles. Je déroge un peu à la tradition en ne passant pas justement des chants de Noël, parce que nous n'avons pas le temps, et que je l'ai fait souvent, donc peut-être que je le referai au 1er janvier, qui sera une rediffusion, car vos animateurs préférés aussi prennent des vacances. Donc nous allons commencer ce soir par rattraper un petit peu le temps des nouveautés. Je vous propose de commencer par une chanteuse, honneur aux dames, qui s'appelle Marion Grandpal, que nous connaissons évidemment, et qui propose un album en hommage à Abel Lincoln, Tribute to Abel Lincoln, qui est sorti le 14 novembre dernier. Et donc nous allons écouter un titre qui s'appelle « And it's supposed to be love » de Abel Lincoln elle-même, qui est un thème que évidemment on connaît, et elle est accompagnée avec Archie Shepp dans un des titres, Matisse Pascoe aux guitares électriques et acoustiques et au mélotron, ce vieil instrument qu'on connaît des Bundy Blues notamment, mais pas que. Raphaël Chassin, batterie et percussion. Simon Tailleux à la contrebasse. Thibaut Gomez, piano et piano préparé au pluriel. Et aux prophètes, enfin aux divers synthétiseurs analogiques. D'ailleurs, je trouve ça étrange de revenir sur ce genre de choses. Et en invité spécial à la guitare électrique, Monsieur Bill Frisell lui-même. Alors, vous allez avoir un certain nombre de concerts. Le 3 février à Sceaux, le 11 à Metz, le 19 mars au Locle.